Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode du Balado Immersion avec vos baladeuses préférées, Clara et Marie-Dominique.
Bonjour. Bon matin.
Allô, Clara.
Allô. Alors, ce mois-ci, on est sur la thématique Prix Hublot.
On a touché également au syndrome de l'imposteur, donc on va vous en parler durant le balado.
Problématique ô combien répandue chez les personnes CP.
Ah oui, oui. Effectivement, c'est ce qu'on a compris dans nos discussions. Pour commencer, on peut faire le petit retour sur les activités qu'on a eues. Donc, en première activité, on a reçu Aïda Oulad-Edar.
Qui est venue nous présenter le projet avec lequel elle a remporté le prix Hublot 2025 dans la catégorie « Égalité des chances ». Elle a en effet créé des capsules vidéo pour l'unité de soins virtuels qui permettent à toutes et à tous d'accéder à des environnements numériques d'apprentissage.
Sécuritaires,
qui permettent d'explorer les interventions auprès des patients sans mettre à risque des patients réels.
À noter que les capsules sont disponibles sur Pavillon Rennes, donc en libre accès pour toute personne qui voudrait les utiliser ou les réutiliser ou même s'en inspirer dans d'autres contextes. Lors de sa présentation, Aïda nous a parler de son sentiment d'imposteur, en fait, aussi parce qu'elle était en soutien à ce projet-là et elle se sentait pas nécessairement valide de recevoir ce prix, puisqu'elle avait contribué avec une grande équipe, en fait, à ce projet-là, alors que sa participation était, on va se le dire, essentielle d'un point de vue pédagogique. Puis on a vu aussi que lors de la pédagopause, que ce soit au collégial ou au niveau universitaire, toutes les personnes vivaient quand même ce sentiment d'imposteur, bien que les réalités soient parfois différentes, parfois similaires aussi.
Oui, en fait, ce qui était intéressant dans cette discussion, c'est que ça a ouvert la parole sur le fait que les personnes CP étaient prises en tension, finalement, en étant le rouage central qui permet la bonne marche de la machine pédagogique, mais tout en étant profondément invisible au cœur de cette machine. Donc tous ces éléments-là, finalement, de tension entre l'innovation et l'adaptation, entre la mise en valeur et l'autonomisation de la personne enseignante, va contribuer à une difficulté à faire voir son travail.
Oui, c'est ce qu'on voyait souvent. Bien, les personnes conseillères pédagogiques se sentaient invisibles dans leur travail. Ce qui fait en sorte aussi qu'ils n'osent pas soumettre des projets non plus au prix Hublot.
On a fait un lien finalement entre ce sentiment d'imposteur et les prix Hublot parce que les prix Hublot, depuis leur création au sein d'Immersion CP, ont eu justement comme fonction explicite de mettre en valeur les contributions pédago-numériques des personnes CP dans le supérieur.
Oui, c'est vraiment de mettre la lumière sur un travail de l'ombre. Je parlais justement avec certaines personnes CP, et puis c'est ça, toutes les personnes récemment à qui j'ai parlé, soit pour le prix Hublot, soit pour venir donner des ateliers, avaient l'impression de pas être assez. Pas assez connues, pas assez documentées, mais en même temps, en leur parlant, je voyais très bien qu'ils étaient très connaissantes sur leur sujet, qu'ils les passionnaient dans leur domaine, dans leur expertise comme CP. Puis c'est ça qui est important, c'est ça qu'on veut voir. Puis chaque personne a ce petit quelque chose-là.
D'autant qu'un fait intéressant à noter, c'est que ce n'est pas la personne en tant que personne ou en tant que professionnelle qui est visée par le prix, c'est vraiment une pratique qu'il ou elle a mis en place ou développée ou déployée. La plupart des situations pédagogiques s'expriment de manière unique parce qu'on a un problème, parce qu'on a un contexte, parce qu'on a des enjeux qu'on n'a pas vu se présenter avant et face auxquels on doit innover. Alors, concernant les prix Hublot, justement, les voilà lancés officiellement.
Oui!
Donc, cette année, pour les prix Hublot 2026, vous avez jusqu'au 31 janvier 2026. Les candidatures se font via un formulaire qui est disponible sur notre site web i-mersioncp.ca à la rubrique prix Hublot. Vous allez pouvoir trouver toutes les informations nécessaires pour candidater. Pour cette année, on a plusieurs nouveautés. La première, c'est une nouvelle catégorie. En effet, on a toujours 5 catégories comme chaque année. La première catégorie est la catégorie transformation qui vise à s'intéresser à des pratiques qui ont un impact systémique, structurel ou qui vont changer les pratiques localement ou plus largement. La deuxième, c'est réussite et apprentissage, donc toutes les initiatives qui permettent d'améliorer les apprentissages, soit des personnes étudiantes, soit des personnes enseignantes, soit d'autres collègues CP ou des directions, mais qui vont favoriser aussi la persévérance, la motivation, bref, l'engagement dans un parcours apprenant. La troisième est la catégorie ressources, c'est-à-dire la création ou le développement ou la diffusion, le déploiement de ressources pédagogo-numériques et leur mise à disposition auprès de personnes, CP, enseignantes, etc. La quatrième est la catégorie égalité des chances. Elle vise à mettre en lumière toutes les pratiques qui ont pour objectif de soutenir la diversité des besoins d'apprentissage. Et finalement, la dernière catégorie, c'est la grande nouveauté de cette année. C'est la catégorie appartenance numérique, qui est une catégorie qui vise à favoriser le sentiment d'appartenance, le sentiment collectif. Donc, toute initiative qui permet de créer du rassemblement, tout ce qui permet de développer ce sentiment d'appartenance dans les communautés pédago-numériques.
Mais Clara,
oui.
Moi, est-ce que je peux appliquer?
On accepte autant les candidatures individuelles que les candidatures d'équipe. La condition est qu'une ou des personnes conseillères pédagogiques dans l'enseignement supérieur au Québec aient participé activement à ce projet pédago-numérique.
Et puis Clara, mais qui va choisir les récipiendaires?
Les récipiendaires vont être choisis dans un premier temps par un comité de sélection qui est constitué de plusieurs personnes partenaires. Et ces personnes-là vont choisir les candidatures retenues selon une grille d'évaluation. Vous avez tous les critères d'évaluation qui sont évidemment disponibles dans le cadre réglementaire. À noter cette année qu'il y a une nouveauté, puisque la réflexion sur l'éthique pédago-numérique liée au projet est cette année un des nouveaux critères d'évaluation.
Donc, si je comprends bien, si je travaille dans un cégep ou une université, je peux appliquer pour moi ou soumettre la candidature d'une ou d'un de mes collègues.
Il y a un prix pour chaque catégorie de 1 000 $ qui sera généreusement subventionné par le ministère de l'Enseignement supérieur.
Et prix qui seront remis lors de la cérémonie des prix Hublot.
Voilà, les galas des prix Hublot qui sont chaque année un des points culminants de nos rendez-vous CP, auxquels on espère que vous participerez parce qu'on va avoir beaucoup de fun.
Les dates pour le rendez-vous CP 2026 seront le 12, 13 et 14 mai. Donc, la journée du 12 mai sera la journée des ateliers en ligne et les 13 et 14 mai seront en présence. On va vous annoncer la programmation début 2026 et je vous le dis, ça va valoir la peine de se déplacer.
D'autant que cette année, on va être au Cheribourg sur un site absolument magnifique.
Oui, au Cheribourg à Offord.
Donc ici, chers auditeurs, nous avons eu la chance de recevoir Yves Mon, qui est un des membres du comité de sélection, qui a accepté de nous partager comment il analysait les dossiers des prix Hublot, puis quelle était sa perception à lui des prix Hublot en tant que personne évaluatrice. Je m'excuse pour la qualité audio de cet extrait qui n'a pas pu être enregistré dans des conditions idéales. Toutefois, j'espère que vous le trouverez instructif.
Alors, Yves Mon, chargé de projet pédago-numérique pour le Carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire de l'UQAM. Nous sommes plusieurs qui, chargés de projet ou conseillers pédagogiques, à avoir participé au prix Hublot. Et on nous a demandé aussi, à quelques reprises, à certains d'entre nous, d'évaluer les candidatures, évidemment en n'étant pas plus d'intérêt avec, par exemple, des gens qui représentaient de notre organisation.
Qu'est-ce qui t'a le plus frappé lorsque tu t'es retrouvé à évaluer ces candidatures?
Il faut revenir à l'essentiel, à la définition du prix Hublot, hein? C'est-à-dire justement comment on veut souligner la contribution d'un conseiller ou d'une conseillère pédagogique qui a eu une action sur son milieu. Alors, dans le fond, c'est de savoir comment cette personne-là a su faire cheminer son idée. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment cette personne-là a été inspirée, comment elle a progressé. L'important, c'est de savoir comment elle a su inspirer par son action dans son milieu. Et l'inspiration, les personnes qui ont mis l'étincelle, qui ont su rallier des gens. Moi, je pense que c'est plus ça qu'il faut valoriser. Dans le fond, c'est l'idée et l'effort de cette personne-là, puis elle doit être récompensée.
Merci. Et une autre question, quand toi tu abordes ces projets qui te sont soumis?
Moi, pour moi, c'est important de comprendre le contexte. Alors, je veux situer cette personne-là. Bon, d'abord, est-ce qu'elle est au collégial? Est-ce qu'elle est à l'université? Est-ce qu'elle est dans un département? Est-ce qu'elle fait partie d'un centre de pédagogie universitaire, par exemple? C'est bon. Alors, moi, l'important, c'est d'établir le contexte. Alors, je veux savoir de quoi on parle ici. Donc, le contexte est important pour moi. Ça peut être parfois juste un petit quelque chose, un petit élément, une petite utilisation d'un outil technopédagogique, mais qui va faire une différence parfois pour des professeurs d'un département ou dans une spécialité précise. Mais l'idée, c'est comment cette personne-là a réussi à concrétiser son idée puis d'aider. Alors, quel est le potentiel de ce qu'elle a fait pour le futur, pour la continuité? Pour moi, ça, c'est important. Puis en fait, c'est des efforts non seulement pour l'ensemble du groupe, mais pour elle. C'est un effort d'apprentissage, c'est un effort de formation personnelle. Et ça, c'est extraordinaire qu'une personne puisse progresser à travers un projet. Et le fait de le soumettre, bien, c'est parce qu'il y a une reconnaissance, ne serait-ce qu'être mentionné, il y a une reconnaissance de la part des pairs en disant, hey, regarde, tu as peut-être fait quelque chose qui est petit, mais c'est extraordinaire, bravo pour les efforts. Donc ici, on a une occasion de reconnaître ces efforts-là. L'important, c'est de regarder, par exemple, sur ce que ça va ce que ça améliore dans ton milieu local, mais aussi à plus grande échelle, ce que ça peut améliorer en communiquant à travers des autres personnes, en donnant un rayonnement à ces gens-là. C'est-à-dire, ah, voici une initiative, puis ça me donne l'idée de la refaire, moi, dans mon contexte, dans mon milieu. Donc, puis en même temps, on reconnaît que cette personne-là a réussi quelque chose. Donc, c'est de souligner cette reconnaissance-là. C'est pas toutes les organisations qui ont ces processus de reconnaissance-là, surtout pour les personnes qui sont cachées, qui sont en coulisses parfois, parce que l'accent est mis beaucoup souvent sur la personne enseignante, le chercheur, l'organisme, mais souvent les conseillers pédagogiques ne sont pas reconnus pour le travail qu'ils font. Mais je dirais que c'est pas un travail qui est facilement qu'on peut mettre dans une boîte. L'expertise est tellement variée en conseillance pédagogique. Donc, quelqu'un qui me posait qu'est-ce que je dois faire pour devenir conseiller pédagogique, bien, plein de choses, mais il n'y a pas vraiment de formation en tant que telle, mais c'est apporter ta contribution dans ton domaine. L'important, c'est l'action, c'est ce que tu as produit, c'est ce que ça amène autour. C'est comme pas évident parce que le travail est fait pour un enseignant, et c'est fait pour un service, c'est fait pour... Nous, on est au service des besoins qui sont demandés en pédagogie. Alors souvent, c'est pas axé sur la personne en tant que telle. Puis c'est ce que j'aime aussi du pré-hublot, c'est qu'en même temps, on s'attarde aux conseillers pédagogiques. Puis ça fait du bien, il n'y en a pas beaucoup de prix qui sont pour les conseillers pédagogiques. Puis il faut valoriser ça. Puis...
Un grand merci à Yves Mon pour ce partage. J'espère que vous aurez apprécié ces quelques informations supplémentaires et aussi que ça vous aura inspiré à faire reconnaître et connaître votre travail à travers les pré-hublots.
Merci de votre écoute, cher public. Donc, le mois prochain, notre thématique, c'est les CP dans les institutions entre confusion et rôle essentiel. Et je veux vous inviter au prochain atelier qui se tiendra le 5 novembre avec Félix Arcoin sur qui a comme sujet professionnaliser le conseil pédago-numérique vers un référentiel de compétences professionnelles. Ça va être très dynamique et fort intéressant. Et puis, on aura Mylène Goulet pour la Pédagopause le 19 novembre, être CP. Apprivoiser le grand écart. Et on parle vraiment de la diversité des rôles, des multiples contextes et fonctions des CP. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site, je vous répète, i-mercioncp.ca.
Voilà, vous allez trouver tout ça dans la section activités. Vous allez pouvoir vous inscrire directement. Mais merci beaucoup. Merci Marie-Dominique.
Ça me fait plaisir et je veux vous rappeler, chers CP, que vous êtes des professionnels essentiels à la qualité de l'enseignement supérieur. Ne doutez jamais de vous et de votre valeur. Alors sur ce, au mois prochain!